sont venus ce matin de Metz. Donc, bonjour à eux. C'est le moment de tomber des masques. J'enlève ça parce que c'est plus facile pour moi de parler sans masque. Alors, je renouvelle mon bonjour à tous et à toutes. Et je vous avais donné rendez-vous, je ne sais pas si vous étiez là, le 25 juillet, pour une suite de prédications sur nos propres attentes dans cette vie et aussi pour les attentes divines, parce que Dieu aussi a des attentes. L'attente, c'est cet état de conscience d'une personne qui attend ce qu'elle espère. Voilà, c'est une sorte de définition, hein. Quand, par exemple, j'attends une réponse à ma prière, eh bien, j'observe avec beaucoup d'attention tous les signes que Dieu, dans sa bonté, va m'envoyer. Hein ? L'attente est donc à la fois patience, espérance et puis confiance. Dieu lui-même exprime des attentes à notre égard. Alors, les attentes du Seigneur sont toujours légitimes, bien sûr, mais hélas, elles ne sont pas toujours faciles et évidentes à comprendre. Enfin, si vous arrivez à toujours les comprendre, bravo, moi, c'est pas mon cas. Car elles émanent d'un esprit supérieur qui nous dépasse totalement. Dans Ésaïe 55, verset 8, par exemple, il est marqué « Car mes pensées, dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées et vos voix, elles ne sont pas du tout mes voix. » Alors, ce décalage de pensée crée bien souvent une incompréhension entre l'homme et son Dieu. Un décalage qu'on peut néanmoins combler, gommer, en partie, de deux manières. Alors, d'une part, en convertissant nos pensées à celles de Dieu, ça c'est pas facile, et puis d'autre part, en apprenant à connaître les pensées divines, en méditant, en creusant sa parole. Alors, c'est dans cette optique que je vous propose donc ce matin de commencer en méditant le très très beau texte de 2 Rois 5, versets 1 à 19 dans la Bible, que je vais lire avec vous ce matin. Alors, c'est l'histoire de Naaman. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en très haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service, cette petite fille, de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre !» Naaman répétait au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi Naaman se mit en route en portant 350 kilos d'argent, c'est pas rien, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Mais je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, La manna et le parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? » Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié? » Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Amen. Amen. Vous savez, une lecture rapide de ce texte pourrait nous laisser penser que l'événement le plus important de l'existence de Naaman, c'est la guérison miraculeuse de sa lèpre. Alors certes, il s'agit d'un événement considérable pour sa vie, et je ne le sous-estime pas. Mais si on étudie un peu plus profondément la globalité de l'histoire, si l'on creuse le texte et qu'on tient compte de l'esprit général de la parole de Dieu, eh bien, on observera que derrière le miracle de la guérison physique, il y a un miracle bien plus grand, bien plus considérable et bien plus merveilleux, c'est celui de la guérison intérieure de Naaman, qui consiste en une rencontre authentique avec son Créateur. Dans tout ce texte, absolument tout, est concentré par Dieu pour venir chercher cet homme dans sa profonde misère intérieure et l'amener à accepter l'Éternel, le seul vrai Dieu, dans une conversion personnelle, véritable et vraie. Dieu va non seulement utiliser pour cela la maladie de Naaman, mais toute une nuée de personnes qu'il va placer sur sa route pour l'amener à une très belle rencontre spirituelle qui va changer toute sa vie. Alors disons-le clairement, l'attente de Dieu pour Naaman, c'est de le rencontrer en puissance et en vérité, selon ce qui est écrit dans sa parole, 1 Timothée 2,4, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Souvent j'entends dire « Oui, mais Dieu il veut sauver que quelques personnes. » Dieu veut sauver tous les hommes, tous les hommes. Naaman, lui, il est général en chef de l'armée syrienne. C'est un homme considérable et considéré. Il a toute l'estime du roi de Syrie, hein, c'est pas rien. Il est admiré, reconnu par ses soldats. C'est un chef victorieux. On pourrait dire de lui que c'est un homme comblé. Il a tout pour être heureux. La vie lui a été favorable? Eh bien non, non. Car cet homme, ce guerrier valeureux, ce stratège, est atteint, nous dit la Bible, d'une maladie répugnante qui fait de lui un homme impur. Il est lépreux. Frères, sœurs, Naaman, c'est le symbole de l'homme de ce monde qui a tout pour vivre heureux, mais à qui il manque au moins une chose pour vivre son bonheur. Alors, pour certains, qu'est-ce qui manque? Il manque l'amour, l'âme sœur. Pour d'autres, il manque des enfants. Pour d'autres encore, il y a une insatisfaction qu'ils ne peuvent combler, un manque de paix intérieure, un handicap, de l'argent, je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque. Personnellement, moi j'éprouvais une grande solitude qui m'empêchait d'aller vers les autres. Et c'est ça qui me manquait. Naaman, lui, il est malade, mais pas de n'importe quelle maladie. C'est une maladie repoussante qui se voit et le rend impur. Il paraît clair que cette infirmité, eh bien, détruit sa vie. Et déjà, quand vous avez un bouton sur le nez ou sur la figure, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, que tout le monde le voit. Eh bien, cette maladie répugnante doit hanter les jours et les nuits de Naaman. Son attente à lui doit être obsessionnelle, se débarrasser coûte que coûte de cette maladie. Frères, sœurs, vous voyez ce décalage d'attente entre Dieu qui attend une guérison intérieure et Naaman qui attend, lui, une guérison physique. Cette maladie qui obsède Naaman, qui l'empêche de vivre, qui gâche sa vie, va devenir bientôt le moteur de sa décision inconsciente de rencontrer Dieu. Je me souviens de ce que m'avait dit un jour le pasteur David Braun, ancien pasteur de Villers. Il disait, écoutez, moi j'ai jamais vu personne venir frapper à ma porte ou sonner à ma porte en disant, voilà, moi je suis heureux, j'ai un bon métier, j'ai une femme merveilleuse, des enfants formidables, tout se passe bien dans ma vie et j'aimerais que vous m'aidiez à rencontrer Dieu. Humainement, l'homme, l'être humain, est incapable de chercher Dieu. David, dans le psaume 14, verset 2, le montre clairement. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien selon Dieu, bien sûr. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, c'est-à-dire nous, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'invoque point l'Éternel. Personne ne cherche Dieu. Cet homme, Naaman, égaré, loin de Dieu, sans intelligence spirituelle, va être, par la maladie, prédisposé à rencontrer Dieu. Ce Dieu dont il a entendu parler, mais qu'il ne connaît absolument pas, quoi. Alors c'est vrai que Dieu, il pourrait comme ça apparaître à Naaman dans une vision comme Jésus est apparu à l'apôtre Paul sur la route de Damas. Mais Dieu a clairement prévu pour Naaman autre chose. Parce que Dieu, il fait pas toujours les mêmes, il agit pas toujours de la même façon. À savoir un trajet spirituel sagement préparé et guidé par lui, et dans lequel Naaman devra prendre sa part de responsabilité, mais aussi de décision. Dieu va créer lui-même les événements, il va créer les circonstances, il va mobiliser différentes personnes pour organiser le choc spirituel de la rencontre. Rien, frères et sœurs, nous allons le voir, n'est laissé au hasard. Il n'y a pas de hasard. Je voudrais revenir un instant sur la maladie de Naaman. Peut-être, frères et sœurs, avez-vous remarqué que lorsque vous allez prier pour une personne, pour sa conversion, vous allez vous dire, elle va se rapprocher de Dieu. Eh bien, des fois, c'est tout à fait l'inverse qui se passe. La personne va au contraire peut-être vivre des épreuves, des maladies. N'en soyez pas découragés et au contraire, comme pour Naaman, priez ardemment pour que cela débouche sur une rencontre spirituelle. Ce récit nous montre aussi comment Dieu va utiliser différents êtres humains comme des instruments au service de sa gloire. Alors vous le savez, frères et sœurs, que rien ni personne, et c'est ce qu'a rappelé ce matin Sophie, ne peut s'opposer à la volonté arrêtée de Dieu. Dans Job 23, 13, il est marqué « La résolution de Dieu est arrêtée, qui s'y opposera ? Ce que son âme désire, il l'exécute. » Quand Dieu veut quelque chose, on ne peut pas s'y opposer. Dieu peut utiliser des anges, des songes, des animaux même, c'est incroyable, rendez compte. Il a ouvert la bouche de l'ânesse du prophète de Balaam. Nombre 22, verset 28. « L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Rendez compte, si vous aviez votre chien qui vous parle. Ici, Dieu va utiliser la participation de cinq personnes différentes pour amener Naaman à le rencontrer. Tout d'abord, cette jeune servante. Alors, un petit peu d'histoire. Israël et la Syrie sont voisins et ennemis. Des troupes de pillards syriens font des incursions régulières en Israël. Et lors de ces raids, eh bien, des Israélites sont faits prisonniers et revendus en Syrie. Et c'est précisément le cas de cette jeune servante, de la femme de Naaman, qui a été arrachée à sa famille pour servir un chef ennemi. Dieu utilise la foi de cette jeune servante israélite qui, ironie du sort, est celle qui va délivrer un témoignage d'espoir de guérison à l'ennemi de son peuple. Elle va lui dire « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Cette jeune fille aurait pu se taire, elle aurait pu mépriser dans son cœur celui qui la retient prisonnière loin des siens. Non, Elle a au contraire accompli par la foi la parole prononcée 800 ans plus tard par Jésus. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Cette servante a été placée à cet endroit, dans un but bien précis. Elle s'est montrée fidèle à la mission que Dieu lui a confiée. Frères, sœurs, à quel endroit Dieu vous a-t-il vous placé? Peut-être que vous pensez, là où je suis, je ne sers à rien ou à pas grand-chose. Pourtant, Dieu peut vous utiliser pour transmettre sa parole et témoigner son grand amour au monde. Et puis, il y a le roi de Syrie et le roi d'Israël. Le roi de Syrie, c'est l'autorité suprême du pays de Syrie. Il peut parfaitement s'opposer au plan de Dieu en interdisant formellement à Naaman de se rendre, lui le chef de son armée, en terre ennemie. Mais Dieu, qui est le roi des rois, qui est l'autorité spirituelle souveraine, qui domine sur toute autorité, eh bien, il va mettre dans le cœur du roi de la bienveillance pour Naaman. C'est incroyable. Afin qu'il puisse respecter le plan de Dieu que Dieu a prévu pour lui. Eh bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Et il écrivit, tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. Verset 6. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, dans sa volonté, l'Éternel peut même déplacer les montagnes et rendre favorables même les cœurs les plus récalcitrants. C'est encourageant, ça, non? Le roi d'Israël, lui, c'est un obstacle bien différent à franchir. En tant que souverain, il peut lui aussi légitimement s'opposer à la venue d'un général étranger sur son territoire. Pour que Naaman puisse paraître selon le plan de Dieu devant le prophète Élisée, il faut que le roi sollicite celui-ci, le prophète. Quand le roi d'Israël prit connaissance de la lettre, alors il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ?» C'est vrai, si on demande au roi de guérir, je comprends sa réaction. Mais déchirer ses vêtements, c'est un acte hautement symbolique pour le roi. Ça représente le brisement du cœur, son impuissance, le deuil. Voilà, je n'y arrive pas. Ce geste ne peut laisser le prophète insensible. Et lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ?» J'aime bien la question parce qu'il connaît déjà la réponse. « Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Frères, sœurs, Dieu qui en Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Il peut transformer une situation critique en une situation propice. Si Dieu est pour nous, écrivait l'apôtre Paul, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Et puis enfin, le prophète Élisée. Il s'agit d'un homme de Dieu qui n'a normalement aucune autonomie personnelle. Le prophète est à la fois le porte-parole et la main de Dieu. Il est aux ordres de l'Éternel. Son attente, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Balaam, le prophète que j'ai cité tout à l'heure, disait avec raison, dans le Nombre 24, verset 12, « Même si le roi me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser l'ordre de l'Éternel pour faire quoi que ce soit, en bien ou en mal. Je ne pourrais dire que ce que l'Éternel dira, rien d'autre. » Vous savez, lorsque quelqu'un a reçu le don de prophétie, de prédication, d'enseignement de la parole, il doit se souvenir de cela. Ce qu'on annonce, c'est uniquement ce que Dieu nous dit. Naaman, lui, il s'était mis en route et il avait emporté avec lui 350 kilos d'argent, 60 kilos d'or, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange pour le prophète. Alors, on l'a vu, hein, Naaman, il n'a qu'une attente, lui, c'est d'être guéri de sa lèpre. Alors que ce soit un marabout, que ce soit un sorcier, un guérisseur ou un homme de Dieu qui le guérisse, peu importe, du moment que la guérison soit au bout, alors bien sûr, frères, nous, frères et sœurs, on n'a pas ce même raisonnement, nous. Pour cela, Naaman est prêt à acheter même sa guérison. Il pense que l'argent peut tout, même donner des ailes au prophète. D'ailleurs, la jeune servante n'a-t-elle pas dit que ce serait le prophète qui le guérirait de sa lèpre ? Élisée, le prophète, lui, se conforme strictement à ce que lui a dit Dieu. Il ne sort même pas à la rencontre du lépreux. Pourtant, ce lépreux vient à lui avec de gros, gros présents. Peut-être a-t-il même peur d'être tenté par l'argent et trahir son ministère. Alors le prophète lui fait dire par un messager, pas lui-même, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Cette injonction d'Élisée n'est pas du tout conforme à l'attente de Naaman, qui pensait que le prophète viendrait en personne vers lui, qu'il invoquerait son Dieu, passerait sa main sur la partie malade et puis le guérirait de sa lèpre. Le grand jeu, quoi. Il attendait qu'il lui fasse le grand jeu. Est-ce que nous, on a ce genre d'attente ? Effectivement, frères et sœurs, si le dessein de Dieu avait été uniquement de guérir Naaman, le prophète serait très certainement venu à la rencontre du lépreux et lui aurait dit « Naaman, crois-tu que Dieu peut te guérir de ta lèpre ?» Mais nous l'avons dit, la guérison n'est pas du tout le but ultime. Ce n'est ici qu'un moyen employé par Dieu pour rencontrer Naaman. Frères et sœurs, j'entends parfois dire que ce n'est pas dans la volonté de Dieu que des chrétiens soient malades ou handicapés, parce que Dieu veut guérir tous ses enfants. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec cet avis. Et pour 3 raisons. Mais ça me concerne, hein. Le premier, c'est que Dieu n'a jamais exprimé cette pensée dans la Bible. Bien au contraire, l'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair qui le faisait terriblement souffrir et que Dieu n'a jamais guéri. Deuxièmement, Luc 4, 27, il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. Seul Naaman, le Syrien, l'a été. Voilà, c'est pas automatique la guérison. Et puis troisièmement, Jésus lui-même, dans Matthieu 5, 29, disait « Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi perdre un organe, être handicapé, que de voir ton corps entier précipité en enfer. » Si Dieu, par l'intermédiaire du prophète Élisée, choque Naaman par son ordre d'aller se laver dans le Jourdain, c'est très certainement parce qu'il ne veut pas, que Naaman rentre guéri de sa lèpre en Syrie, sans être purifié intérieurement, sans s'être converti. Ce qu'il voulait, c'est avant tout qu'il soit converti. L'attente ultime de Dieu, c'est de rencontrer Naaman, nous l'avons dit. Et pour cela, il doit briser à la fois son orgueil et toutes ses résistances inconscientes qui l'empêchent de venir à lui. Alors vous savez, l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui remplit tout être humain. Et du fait de sa responsabilité de général en chef, de ses nombreux succès militaires, du soutien du roi de Syrie, eh bien Naaman a acquis un statut qui impose le respect de tous. Alors quand Élisée non seulement ne le reçoit pas, mais lui fait dire par un simple messager, comme s'il était un vulgaire soldat, « Allez, allez, va te laver 7 fois dans le Jourdain », son ego est complètement blessé. Vase de sa patience. Comme lui, de l'ego. C'est avoir une opinion faussée, démesurée de soi-même, qui empêche de voir Dieu et les autres. C'est l'orgueil de l'homme autonome, c'est-à-dire de l'homme sans Dieu, qui pense pouvoir se passer de son Créateur et s'attribue l'honneur à lui-même plutôt qu'à Dieu. L'orgueil, c'est la racine et l'essence même du péché. Alors, je ne vais pas développer ici un chapitre sur l'orgueil, hein, qui touche tout être humain à plus ou moins haut degré. Mais l'orgueil empêche ici Naaman d'accepter l'invitation du prophète, et donc de Dieu d'aller faire trempette dans le Jourdain. Quand il dit les fleuves de Damas, la Mana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël, il exprime cela. Et puis les résistances inconscientes. Nous avons tous et toutes des résistances inconscientes dans notre vie. Ce sont tous ces résistances invisibles qui empêchent de venir à Dieu. En voici quelques-unes. Naaman, lui, il sert le Dieu de son maître. C'est le Dieu Rimmon qui passait pour commander à la pluie, à l'orage, aux éclairs. Pour lui, c'est un Dieu aussi valable que l'Éternel. L'homme naturel, il pense que tous les dieux se valent. Bouddha, tous les dieux, quoi. Naaman a-t-il vraiment, une deuxième résistance inconsciente, Naaman a-t-il vraiment besoin de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'on a vraiment besoin de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qu'il peut lui apporter de plus qu'il n'a déjà? Sauf peut-être pour le guérir de sa lèpre, mais jusqu'ici, aucun Dieu n'a pu le délivrer de cette impureté. Et puis, l'autre résistance encore, personne n'a jamais vu Dieu. Ça reste une croyance, ça reste une opinion. Certains croient qu'il existe, d'autres croient qu'il n'existe pas. Toutes ces résistances inconscientes, et bien d'autres encore, sont avec l'orgueil des barrages, des obstacles à la rencontre avec Dieu. Et dans son plan de rencontre avec Naaman, Dieu va faire sauter un à un tous ces obstacles. Le brisement, le rôle des serviteurs. Naaman, lui, était venu en Israël avec beaucoup d'attentes, hein, rappelez-vous, plein d'espoir, avec la perspective d'obtenir la guérison de sa lèpre. Mais son espérance vire au cauchemar. Il se sent humilié par le prophète. C'est un homme vexé qui est sur le point de rentrer dans son pays avec une défaite personnelle retentissante. Naaman est un homme brisé psychologiquement. Certes, il pourrait encore revenir en arrière, faire ce que lui a dit le prophète, essayer en tout cas, hein. Mais l'orgueil l'en empêche. Alors, il s'éloigne furieux, plein de colère. Et le rôle des serviteurs, là? Dieu a gagné une première bataille dans son combat contre les résistances de Naaman. Il lui a mis un genou à terre en le touchant psychologiquement, mais il va devoir le briser maintenant spirituellement. Pour cela, il va utiliser les propres serviteurs de Naaman. Est-ce que vous avez déjà été brisé spirituellement? Moi, je l'ai été deux fois. Ça fait mal. Ça fait très très mal, mais c'est salutaire. Au verset 13, les serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et ils dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Vas-y !» Et là, c'est le véritable coup de grâce spirituel qui brise les dernières résistances de Naaman. Ce dernier témoin envoyé par Dieu est celui qui, par sa parole de sagesse, va ouvrir l'intelligence spirituelle du lépreux. Personnellement, pour m'amener à rencontrer Dieu, Dieu a mis de nombreuses personnes différentes sur ma route, telles de petites lumières, témoins de sa grâce profonde. Le dernier témoin, c'est par exemple, si vous en souvenez, c'est Élieu pour Job, qui dit à Job, « Dieu est bien plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» Cette parole de sagesse qui a touché Job et qui, par cette sage parole, le remet dans la bonne direction. C'est Élisée qui, en 2 Rois 6,15, ouvre les yeux de son serviteur. Vous rappelez, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit une troupe qui cernait la ville avec des chevaux et des chars. Il dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Et il répondit, et c'est ça là, cette parole de sagesse qui ouvre les yeux, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria l'Éternel, qui ouvrit ses yeux, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. La parole de sagesse du serviteur envoyé par Dieu ouvre les yeux de Naaman. Elle éclaire son intelligence obscurcie. Il voit à présent la puissance et la belle promesse de Dieu. Naaman va dès lors faire ce qu'il avait refusé de faire auparavant, même qu'il n'arrivait pas à faire. Verset 14, il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. À présent, Naaman se soumet à la volonté de Dieu. Son orgueil est brisé, ses résistances volent en éclats, et sa lèpre est guérie. Mais en même temps, un miracle plus grand, plus profond a lieu en lui. Son homme intérieur rencontre le Dieu de l'univers. Et c'est ça qui est magnifique. La rencontre entre Dieu et Naaman rappelle celle de Jacob qui a dû combattre contre Dieu et qui a triomphé de Dieu. Naaman, lui, est sorti vainqueur puisqu'il a pris la décision de descendre dans le Jourdain, d'être guéri et de rencontrer Dieu. Et ça, c'est une victoire qui n'a pas de prix. Frères, sœurs, de nombreuses personnes, et là je parle symboliquement, amenées au bord du fleuve par Dieu, ne choisissent pas d'entrer dans le Jourdain et retournent lépreux en Syrie. Elles passent au pied de la croix de Jésus sans s'y arrêter. Matthieu 22, verset 14, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Si Dieu ne se lasse pas d'appeler l'homme, si Dieu a un plan de salut pour chaque être humain, force est de constater que peu répondent à son appel, peu mettent leur confiance en Jésus-Christ, peu entendent l'appel à guérir de la lèpre intérieure. Jean 3, verset 36, « Qui place sa confiance dans le Fils possède dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, la vie éternelle. » Vous avez la vie éternelle ? Pas beaucoup répondre, hein ? Peut-être que ce matin, quelqu'un dans cette salle entend cet appel de Dieu à faire le choix de le rencontrer. Peut-être, comme Naaman, entendez-vous cet appel à entrer dans le Jourdain ? Ne rentrez pas lépreux, je vous en supplie, en Syrie. Ne rentrez pas lépreux en Syrie. À présent, Naaman reconnaît l'Éternel comme le seul et unique Dieu. C'est le miracle de la conversion. « Je reconnais, dit Naaman, qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Ce n'est pas ce qu'il disait au début, rappelez-vous. Cette reconnaissance d'un Dieu unique, capable de le guérir de sa lèpre extérieure, mais aussi intérieure, donne à Naaman la force de demander à Dieu deux grâces. Deux grâces qui sont les deux premières attentes du converti. La première demande, au verset 17, « Permets-moi d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent en emporter, car dorénavant ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Notez que Naaman n'a pas demandé 2 outres d'eau, hein, du Jourdain pour se souvenir du miracle de sa guérison, hein, comme des fois on ramène des petites fioles de Lourdes, vous savez. Mais un peu de terre d'Israël qui symbolise sa rencontre avec Dieu. Il veut créer chez lui un sanctuaire pour continuer à rencontrer son Dieu, pour l'honorer et le glorifier chaque jour. Avons-nous un sanctuaire ? Avons-nous un lieu où nous pouvons chaque jour rencontrer notre grand Dieu. Et puis la deuxième demande, au verset 18, « Quand mon souverain se rend dans le temple du Dieu Rimmon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne ce geste à ton serviteur. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Frères, sœurs, comment réagirions-nous nous-mêmes, si un nouveau converti nous posait ce genre de questions? On n'y va surtout pas. Parfois, on entend dire « Avec Dieu, pas de compromis. Dieu est un Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival. » Et cela est vrai. Alors, que s'est-il passé pour que Dieu accepte ce compromis? Eh bien, désormais, le cœur de Naaman appartient totalement et uniquement à l'Éternel, son Dieu, sa seule autorité, et Dieu le sait. Dieu respecte le désir de Naaman de ne pas entrer en conflit avec le roi de Syrie, qui considère Naaman comme son bras droit. Et qui sait d'ailleurs si Naaman ne trouvera pas un jour l'opportunité de lui témoigner sa conversion? Dieu accepte ce compromis, me semble-t-il, car à aucun moment Naaman ne désire reconnaître dans son cœur ce faux dieu Rimmon. Il veut seulement respecter son roi. Et moi, je peux vous donner un exemple personnel. Lors de la cérémonie d'enterrement de ma belle-mère, qui était musulmane, l'imam a invité l'assemblée à venir prier pour la famille. Avec mon beau-frère Angelo, qui est chrétien, nous avons répondu à son invitation afin d'honorer la famille, mais nous avons prié dans notre cœur Jésus-Christ. Pour toutes les personnes présentes, l'imam y compris. Frères, sœurs, ce très beau récit de Naaman montre l'attente passionnée de Dieu à rencontrer chaque être humain, à transformer des vies insipides en existences bénies, des vies perdues en existences victorieuses. Dieu invite encore aujourd'hui des femmes et des hommes à le rencontrer, à vivre de grandes guérisons intérieures. Ce matin, vous pouvez prendre la plus belle, la plus grande décision de votre existence en descendant dans le Jourdain et en acceptant en toute confiance Jésus dans votre cœur. Amen. Voilà, je vous remercie pour votre écoute attentive, et je vous invite à retenir donc la prochaine date du 7 novembre pour le troisième volet des attentes, dans lequel nous parlerons de Marthe et Marie. Je vais prier pour l'Assemblée, et ensuite nous passerons un moment de Sainte-Seine. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'un jour tu as touché mon cœur, tu es entré dans ma vie. Seigneur, je n'étais pas prêt à cela, mais tu l'as fait. Et tu as utilisé des personnes pour cela, comme pour Naaman. Et tu m'as demandé aussi de descendre dans le Jourdain, je l'ai fait Seigneur. Je l'ai fait avec difficulté comme Naaman, mais je l'ai fait Seigneur et tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie éternelle, tu as changé le cours de ma vie, tu m'as donné de l'espérance, tu m'as donné Seigneur quelque chose de nouveau. Et tu as fait de moi une personne nouvelle. Merci Seigneur. Et ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je prie que tu puisses le faire pour tous ceux qui l'entendent, tous ceux qui n'ont encore pas encore passés par la conversion et qui ont besoin, Seigneur, de te rencontrer. Que ton nom soit glorifié dans chaque vie, Seigneur. Amen.